Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant TV, documentaire avec l'incendie du Reichstag quand la démocratie brûle. If you say that you are mine. Ce documentaire a été présenté au Festival TV de Luchon, dont on vous a parlé dernièrement, on vous a fait les coulisses. Et là, eh bien, j'avais l'envie, le grand plaisir de mettre en avant ce documentaire, l'incendie du Reichstag, quand la démocratie brûle. Et j'ai avec moi, à l'antenne, Michael Gamrasny, le réalisateur. Bonjour Michael.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Oh, ça va très bien, je vous remercie.
Alors, comment on se sent à quelques jours de la diffusion de ce documentaire ?
Oh bah là, j'attends avec impatience qu'il soit diffusé depuis quelques mois. Là, il est terminé, on attend les retours du public, évidemment les audiences et tout ça, mais et puis surtout le voir aussi un peu l'effet que ça pourra avoir chez les téléspectateurs de quelques révélations qui sont faites quand même dans le film, puisque le film est quand même conçu comme une enquête qui vise à faire ces révélations au grand public et puis aux gens qui apprécient aussi particulièrement cette période de l'histoire.
Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Une enquête, un thriller. J'avais vraiment l'impression d'être à la place et de faire la propre enquête et de suivre et de me dire, alors, est-ce que c'est par-ci, par-là ? Il y a plusieurs pistes et vous nous mettez vraiment dans l'ambiance.
C'était le but, effectivement, de remonter un peu effectivement aux origines du régime nazi, hein, en remontant avant cet événement, cet épisode qui est l'incendie du Reichstag, qui a lieu le 27 février 1933. Et on est remonté, enfin je suis remonté 5 ans en arrière, pour voir justement comment avait progressé cette montée au pouvoir d'Hitler. Et puis à partir du moment où on a fait cette petite mise en perspective, le but c'est de rentrer dans l'enquête, hein, et d'essayer de comprendre qui était où, à quel moment, quels ont été tous les événements qui se sont produits les uns après les autres, reconstituer la chronologie détaillée des événements pour comprendre ce qui a pu se passer dans ce Reichstag, c'est-à-dire dans le Parlement allemand, le cœur battant de la démocratie allemande, et comprendre comment finalement ce bâtiment qui est si essentiel dans la démocratie allemande de l'époque a pu se retrouver incendié alors qu'Hitler n'est au pouvoir que depuis un mois. Voilà, il n'est au pouvoir que depuis un mois seulement.
Je crois que Shelley, tu as une question pour Michael.
Oui, moi ce qui m'a vraiment interpellée dans un premier temps, c'est vraiment, enfin, vous avez dû faire un travail d'archives assez intense. Je ne sais pas combien ça vous a mis de temps à regrouper tout ça et où surtout vous avez réussi à trouver toutes ces archives.
Alors il y a plusieurs types d'archives. Il y a des archives qui sont des archives papier qui servent, qui sont liées déjà à l'incendie du Reichstag, qui sont très importantes au Bundesarchiv, dans lesquelles on va avoir vraiment tous les documents qui ont été compilés concernant l'incendie du Reichstag. Pour une raison assez simple, c'est qu'à la suite de l'incendie, il y a eu un grand procès dont je parle dans le film, qui a eu lieu, hein, contre les accusés de l'incendie. Et ces documents papier, ils référencent tout ce qui a pu être récupéré à la suite de ça, dans le cadre du procès. Puis après, il y a toutes les archives audiovisuelles qui sont dans beaucoup de fonds différents, beaucoup de fonds allemands bien sûr. Et on a des documentalistes qui sont dépêchés dans ces fonds pour aller récupérer donc les images. Et à partir de là, on travaille sur ces images. Moi, j'ai été assez étonné très vite, très tôt, au moment de la constitution du dossier du film, par l'abondance de photos, en particulier du procès, les mises en scène qui ont été faites aussi concernant les accusés, où on va les présenter à la vindicte publique, notamment l'accusé principal à qui on va mettre une boîte d'allumettes entre les mains pour qu'il ait bien l'air de celui qui a mis le feu
Avec sa casquette.
Au grand public. Voilà, c'est ça, avec sa casquette, etc. Donc vraiment très tôt, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'archives. Et puis la grande découverte de ce film, une énorme pépite, c'est surtout les archives audio. Hein. Voilà, les enregistrements du procès qui ont été faits en fait à l'époque, qui ont été complètement oubliés depuis 90 ans. Vraiment, c'est des enregistrements qui ont été faits de tout le procès. L'intégralité du procès a été enregistrée. Alors avec quelques pertes, quelques manques, et on explique pourquoi dans le film, qui sont notamment liés à de la censure. Et donc voilà, ça a été vraiment très long à écouter, à prendre en note, à sélectionner. Voilà, ça a pris énormément de temps en particulier.
Oui, parce que vous parlez de la censure. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a quelque chose que va dire l'accusé, le jeune Raminius, c'est ça, hein?
Marinus
et Van der Lubbe. Voilà.
Marinus Van der Lubbe, oui.
Et là, bizarrement, va être coupée la retransmission, puisque tout était retransmis à la radio, en direct. Et voilà, il y a quelque chose qui va dire, et hop, ça va se couper. Alors, je ne le dis pas pour que les gens puissent le découvrir dans le documentaire, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a ces moments, et justement, on va le faire passer pour quelqu'un, oh, il était fatigué, il n'était pas bien, il ne savait pas trop ce qu'il disait. C'est fou quand même, cette censure et cette poigne qu'il y avait sur ce procès. On le sent.
Oui, en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que très tôt, alors le procès en lui-même est un procès vraiment politique, hein, et les nazis avaient vraiment beaucoup l'habitude des procès politiques. Eux-mêmes, ils avaient été l'objet de centaines d'accusations jusqu'en 1933. Et Hitler lui-même, on le sait, hein, lors de son propre procès pour le putsch de la brasserie en 1923, il s'est servi de ce procès comme d'une tribune. Donc les nazis ont vraiment l'habitude des procès et savent s'en servir aussi à leur fin. Et là, le but très tôt de ce procès des incendiaires du Reichstag, en tout cas des incendiaires présumés du Reichstag, ça a été de beaucoup médiatiser l'affaire, de mettre en avant les accusés, encore une fois de les soumettre à ce procès, et montrer aussi, paradoxalement, la transparence. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'à l'époque, les nazis sont au pouvoir depuis très peu de temps, donc, et ils aspirent aussi à une reconnaissance internationale. Ils sont scrutés aux yeux de l'étranger, on les regarde, on voit un peu comment va fonctionner le régime. Donc très tôt, ce procès, il est mis en scène par Goebbels, hein, donc, qui est le fidèle ministre de la propagande de Hitler, et Goebbels va avoir l'idée de cette soi-disant transparence. On va quand même faire venir 124 journalistes dans la salle d'audience pour couvrir le procès, hein, dont 82 qui sont des correspondants étrangers. On va enregistrer effectivement l'intégralité des procès, des audiences. On va les retransmettre quasiment instantanément à la radio, quasiment étant important, puisque c'est ce qui permettait aussi effectivement de faire fonctionner la censure. Et à partir de là, on va vouloir mettre en évidence une réalité pour les nazis, c'est que les coupables de l'incendie du Reichstag, ce sont les communistes, puisque ce sont les ennemis vraiment absolus des nazis dans cette période-là. Et voilà, et l'idée qui doit subsister à la fin de ce procès pour les nazis, et c'est un échec pour eux d'ailleurs, c'est de faire en sorte de présenter la culpabilité communiste comme étant évidente.
Oui, tout à fait, puisqu'il y a ce jeune, mais il y en a aussi quatre autres qui sont de parti communiste.
Voilà, donc en fait ce qui se passe, c'est que assez tôt, et c'est quelque chose qui m'a apparu comme étant vraiment intéressant de raconter, assez tôt, on fait un petit casting quoi, du côté nazi pour déterminer en fait qui on va mettre en accusation. Parce que c'est tout le paradoxe de cette histoire. On a l'incendie du Reichstag qui a lieu et on va arrêter des dizaines de milliers de communistes, 100 000 en quelques mois. On en met dans des camps de concentration, les tout premiers camps de concentration nazis de l'histoire.
Le début des rafles.
Avec des rafles et tout ça. Et le paradoxe, c'est qu'une fois qu'on a arrêté tout le monde, la question est de savoir qui on va mettre en accusation directement pour l'incendie lui-même, qui a été finalement le prétexte pour arrêter tout le monde. Et sur ces 100 000 personnes, on va en choisir 5. Voilà. Une, de manière assez évidente, puisque c'est justement ce fameux Marinus van der Lubbe, qui est un jeune Hollandais de 24 ans, qui est retrouvé dans le Reichstag dans le Reichstag en feu. Voilà. Alors après, est-ce que oui ou non, il avait avec lui des allumes-feu, etc. Ça, on ne saura jamais. En réalité, on l'a présenté comme en ayant, mais on ne sait pas vraiment si c'était le cas. En tout cas, il est retrouvé dans ce Reichstag, mais un peu compliqué quand même de faire comprendre qu'un type qui a 24 ans, qui est hollandais, il n'est même pas allemand, qui se dit même pas vraiment communiste en réalité, pourrait être la personne qui servirait de prétexte à arrêter 100 000 communistes. Vous voyez, c'est compliqué. Donc il faut vite faire un casting. Et assez rapidement, les nazis vont chercher donc justement à reconstituer une sorte de pseudo-puzzle avec ces quatre autres accusés qui sont communistes, un communiste allemand et trois autres communistes étrangers, pour faire une sorte de combinaison qui permettrait d'expliquer pourquoi cet homme lui-même aurait mis le feu et surtout pourquoi on aurait arrêté tous les communistes et en les accusant d'un complot contre l'Allemagne.
Alors ce qui est fou quand même, c'est qu'il y a eu un autre procès qui a été fait sans les accusés présumés en Angleterre, c'est ça?
Oui, oui. En fait, Ce qui s'est passé aussi, c'est que, évidemment, comme les communistes sont mis en accusation à la suite de l'incendie du Reichstag, ils sont surtout arrêtés, hein. Donc comme je l'ai dit, vraiment, rapidement, 100 000 communistes sont arrêtés. Beaucoup s'enfuient. Et évidemment, l'Allemagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, est vraiment scrutée depuis l'étranger. Et donc les communistes du reste du monde, hein, se mobilisent très vite pour retourner l'accusation contre les nazis. Et donc d'emblée, tout de suite, les communistes vont accuser les nazis d'avoir été eux-mêmes à l'origine de l'incendie du Reichstag. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ils vont donc se mobiliser, il va y avoir des grandes campagnes de contre-propagande communiste contre les nazis, et le clou de cette campagne, si vous voulez, c'est un contre-procès qui va être organisé effectivement à Londres par des avocats, des juges, qui sont réputés indépendants, même s'ils ont des liens avec les communistes, et qui vont examiner les différentes preuves mises en avant par les communistes eux-mêmes, dont certaines qui sont vraiment trouvées au moment même de l'enquête par ces communistes. Par exemple, l'existence d'un tunnel qui relie le Reichstag au palais du président du Reichstag, qui était le président du Reichstag, c'était quand même Göring. Hein.
Oui.
Donc ce contre-procès va avoir lieu à Londres, et il va, la veille même du vrai procès qui va s'ouvrir à Leipzig, du procès qui est censé condamner donc les 5 accusés, ce procès donc qui va s'ouvrir à Londres va déclarer tous ces accusés innocents, sauf un, qui est donc Marinus van der Lubbe, puisqu'il avait quand même eu le tort de se retrouver au milieu du bâtiment en feu au moment précis. Donc voilà, il n'avait pas de circonstances qui permettaient de l'acquitter.
C'est vrai que pendant cette période, toute l'Allemagne était en émoi, était fixée sur cet événement. D'ailleurs, le hashtag Hitler l'avait dit avant, c'était vraiment ce visage du marxisme, et qu'il fallait le faire disparaître. Mais il y a très très avant.
Oui. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que on l'oublie, parce qu'effectivement, on a les yeux rivés sur l'ascension d'Hitler en tant que dictateur. Mais on oublie que les Allemands, dans leur grande majorité, particulièrement les bourgeois et les nobles, les aristocrates, il y a une aristocratie allemande encore qui existe, même dans la République de Weimar après 1918, cette population, elle a plus peur, pour l'essentiel, des communistes que des nazis. Il ne faut pas oublier que les communistes, par exemple, en 1919, ont tenté de faire un putsch, hein, ont tenté de prendre le pouvoir par la force en Allemagne, à Berlin. Et donc, dans l'imaginaire collectif, la crainte des communistes est quand même plus forte dans cette période-là. On a eu quand même la révolution de 1917 en Russie, il y a très peu de temps auparavant.
Oui.
Vraiment, c'est une grande crainte. Et les nazis vont jouer sur cette peur. C'est ce qui va leur permettre aussi de progresser électoralement. Ils vont se mettre en avant comme étant une sorte de rempart contre ce danger communiste. Et évidemment, tout en cachant qu'eux-mêmes sont un énorme danger pour la démocratie allemande. Avec une réalité aussi, c'est que beaucoup d'Allemands de l'époque vivent mal aussi cette démocratie allemande un peu bancale selon leur perspective. On a un affaiblissement évidemment de l'Allemagne qui est lié à la défaite de 1918, qui est lié à des crises successives, il y a une hyperinflation en 1923, il y a la crise de 1929 évidemment qui joue pour beaucoup, le chômage qui devient énorme. Tout ça, ça fait que on cherche en fait une porte de sortie, une manière de changer ce régime politique qu'on considère comme étant pas suffisamment efficace. Et donc certains vont se tourner vers les communistes, et puis d'autres vont se tourner vers les nazis, et les nazis finalement remportent la mise, quoi.
Hitler va jouer sur les faiblesses en fait de cette Allemagne.
Il va
faire en sorte tout ce qu'il y a, ce qui s'est passé, l'humiliation de 1918 par rapport à la Première Guerre mondiale. Par rapport à tout ce qui se passe, entre parenthèses, qui dit que c'est lié aux bolcheviks et aux juifs, il va jouer sur les faiblesses, sur les choses dont les Allemands ont peur, et il va s'en servir.
Oui, il va manipuler l'opinion autour de tous ces mots d'ordre, hein, et ça fonctionne très bien, parce que effectivement son ascension est très rapide. Il y a électoralement une progression électorale qui, à partir de 1928, est vraiment très, 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 très forte. Mais, malgré tout, ça n'est pas suffisant. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit.
À
c'est pour ça que l'incendie du Reichstag est vraiment essentiel. Ça n'est pas suffisant parce que le système électoral allemand oblige à faire des coalitions. C'est pas tout à fait... Enfin bon, même si on vit un peu la même situation aujourd'hui en France, on est obligé d'avoir des coalitions électorales pour faire tourner le Parlement en Allemagne. C'est vraiment une obligation. Et du coup, les nazis sont un peu victimes d'un cordon sanitaire qui dure hein, jusqu'en 1932, où notamment la droite allemande essaye d'éviter de s'allier avec, avec l'extrême droite. Ça rappelle aussi des choses qu'on peut retrouver encore aujourd'hui en France.
Oui.
Et ce cordon sanitaire, il finit par se rompre. C'est-à-dire à partir de 1932, fin de 1932, on a une alliance électorale qui va finir par se faire et qui va permettre à Hitler de briser le plafond de verre. C'est ce qui va lui permettre, le 30 janvier 1933, de devenir chancelier. Le problème étant que ça n'est pas une garantie pour lui de rester au pouvoir. C'est-à-dire qu'il aurait pu très bien, après le 30 janvier 1933, et d'ailleurs beaucoup de politiques de l'époque s'y attendaient et l'espéraient, il aurait pu échouer. C'est-à-dire qu'il aurait pu, comme beaucoup d'ailleurs de premiers ministres, de chanceliers de l'époque, il aurait pu finalement s'effondrer, ne pas réussir à mener sa politique. Et d'ailleurs, on lui avait mis beaucoup de bâtons dans les roues. Hein. On lui a permis d'avoir que deux ministres nazis. Tous les autres sont des ministres qui ne sont pas nazis, même si c'est parfois des personnes assez proches. Et donc, à partir de là, tout aurait pu s'effondrer. Mais comme par hasard, de manière assez phénoménale, l'incendie du Reichstag intervient. C'est le prétexte qui va permettre de vraiment renverser complètement cette démocratie et de mettre en place la dictature. Donc c'est le véritable point d'origine de la dictature nazie n'est pas l'arrivée au pouvoir d'Hitler le 30 janvier 1933, comme beaucoup parfois le mettent en avant. Le véritable point d'origine, c'est l'incendie du Reichstag. C'est l'embrasement de la démocratie en même temps que de ce parlement du peuple allemand.
Le pourquoi de votre choix de faire un documentaire dessus et apporter une lumière différente.
Exactement. Exactement. Et assez tôt, il a été question de savoir, on a évidemment eu à l'esprit quand on a réfléchi avec la production CinéTV de savoir comment on allait, par quel bout on allait raconter cette histoire du nazisme, puisqu'évidemment on est à 90 ans de l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et c'est vrai qu'assez tôt, on s'est posé la question. Le 30 janvier 1933, c'est effectivement une date symbolique, c'est celle où il arrive au pouvoir, légalement, il ne faut jamais oublier ça, évidemment, il arrive légalement, alors avec une légalité qui est celle de l'Allemagne de l'époque, hein, c'est-à-dire qu'il est nommé par le président Hindenburg, avec qui il est en rivalité d'ailleurs depuis plusieurs années. Il est nommé parce que, tout simplement, électoralement, il pèse le poids le plus fort au Reichstag. Le Reichstag, c'est ce lieu, justement, qu'il a cherché à conquérir. Il ne faut pas oublier aussi un autre élément, c'est que l'arrivée au pouvoir d'Hitler, elle est légale parce que c'est son choix à Hitler. Il a fait ce choix à partir du putsch manqué de 1923 de chercher à arriver au pouvoir légalement et non pas par la force. C'est un choix, en tout cas, qu'il affiche. Et la réalité assez vite et qui nous est apparue assez vraiment importante, et c'est pour ça qu'on a proposé ce film, c'est que dans les faits, il y a cette apparence de légalité permanente, cette volonté de conquérir effectivement l'Allemagne par les urnes, mais il y a aussi la présence très forte des chemises brunes, c'est-à-dire du service d'ordre du parti nazi, qui cherchent aussi à conquérir la rue, qui font preuve d'une grande violence, qui sont très présents aussi dans les affrontements avec les communistes, et cette violence va être instrumentalisée, et donc Hitler fait lui-même le jeu finalement de ce système qu'il va contester, c'est-à-dire qu'il va alimenter une violence tout en disant qu'il va être celui qui va empêcher la violence, hein, notamment des communistes. Et donc à partir de là, l'incendie du Reichstag, c'est une sorte de point d'orgue dans tout ça. C'est-à-dire que c'est à la fois le lieu que les nazis ont cherché à conquérir légalement en essayant de prendre le pouvoir par les urnes, et c'est aussi le lieu qui va être finalement détruit, littéralement détruit, une fois l'arrivée au pouvoir des nazis, et qui va finalement symboliser la défaite de la démocratie, même la mort de la démocratie allemande.
Sauf une petite partie qui servira justement au procès.
Exactement. Donc le Reichstag n'est pas entièrement détruit, effectivement. Ce qui est surtout détruit, c'est la partie la plus symbolique du Reichstag, c'est-à-dire la salle plénière, la salle des débats des parlementaires.
Avec les députés, oui, tout à fait.
Voilà, celle dans laquelle les députés nazis s'affrontaient avec les députés communistes. Hein. Il y a une séquence du film où on entend bien, notamment les nazis chanter leur hymne face aux communistes qui essayent de les en empêcher. Enfin, donc cette salle-là, elle est détruite. Mais symboliquement, et c'est là où on voit toute la violence et la logique de la propagande de Goebbels, proche d'Hitler, symboliquement, on va choisir de mettre en place le procès, en partie, dans une des salles du Reichstag elle-même. Voilà. Alors c'est à la fois pour des raisons symboliques évidentes, c'est-à-dire montrer que finalement on va condamner les incendiaires dans l'endroit même où ils auront commis leurs crimes, mais c'est aussi pour des raisons pratiques, parce que le procès en lui-même va chercher à reconstituer les événements de manière assez intéressante, hein, d'ailleurs, plutôt juste. C'est-à-dire les juges vont quand même chercher pour de vrai, à essayer de démêler le vrai du faux de cette affaire, et ils vont vraiment tirer toutes les pistes, et ils vont se balader effectivement dans les lieux du Reichstag lui-même, et donc c'est pratique de se faire se déplacer toute la cour dans les coulisses de ce Reichstag pour comprendre ce qui a pu se passer.
Alors, je voudrais mettre en lumière, parce que vous aviez un conseiller historique
Nicolas Patin, oui, qui est un des meilleurs historiens du nazisme, et qui effectivement, et en plus c'est un spécialiste de l'histoire parlementaire nazie, donc vraiment voilà, qui nous a appuyé aussi de toutes ses lumières concernant tous ces événements.
Et il y a aussi une musique qui nous met vraiment dans cette ambiance de thriller, qui est faite par Renaud Barbier.
Tout à fait. La musique de Renaud Barbier qui est vraiment exceptionnelle, qui nous accompagne. Le but de musicalement, c'était à la fois de raconter la progression électorale des nazis, et puis c'était aussi de jouer cette carte du mystère, parce que c'est un véritable mystère. Il n'y a quand même pas beaucoup de mystères dans l'histoire comme celui-là. Hein. On pourrait comparer vraiment cet événement à l'assassinat de Kennedy, c'est-à-dire c'est vraiment des moments de l'histoire qui sont des tournants, qui sont des gros moments importants, et qui restent quand même... Toujours lié à une part de mystère. On ne sait pas vraiment qui a pu faire ce qui s'est passé. Le film, en tout cas, cherche à apporter ses réponses et ses révélations à partir de tous les éléments qu'on a pu récolter. Voilà.
Alors, votre film résonne aussi dans l'actualité, puisque le 15 février, le journal Spiegel a mis un article « Des médecins légistes examinent le corps de Marinus van der Lubbe ».
Oui, alors ça c'est vraiment incroyable, effectivement. Ce qui s'est passé, c'est que... alors, il faut comprendre un peu pourquoi cette information est importante. Marinus van der Lubbe, donc c'est l'accusé principal, c'est celui qui se retrouve à l'intérieur du Reichstag en feu, et c'est le seul vraiment qu'on arrête en flagrant délit de quelque chose. C'est un individu qui est vraiment très particulier et très compliqué à sonder. Encore une fois, il est jeune, il a 24 ans, c'est un maçon, mais il est plutôt chômeur. Il a plutôt des allures de vagabond. On s'est demandé d'ailleurs très longtemps dans l'histoire s'il n'avait pas des problèmes mentaux. On s'est beaucoup posé ce genre de questions. Et en tout état de cause, on se demande surtout ce qu'il faisait là, en fait, hein, à l'intérieur de Freistag, alors qu'il n'est même pas allemand, alors que, bon, voilà. Il y a une reconstitution des faits qui a été faite par la police de l'époque, sauf que cette police, on peut douter aussi de tout ce qu'elle a pu raconter, puisque elle était déjà aux ordres de Göring, qui était ministre de l'Intérieur, en plus d'être président du Reichstag. Et au moment du procès, il va donc s'exprimer, il va commencer à s'exprimer de manière assez claire au départ, puis au fur et à mesure de l'avancée du procès, et c'est ce que je montre dans mon film, on voit que le personnage décline, il décline de plus en plus, et puis même physiquement il change, hein, il commence à gonfler, physiquement il devient plus gros, et surtout ce qui est le plus visible, c'est que sa tête tombe en permanence,
ouais, tout à fait.
Vers l'avant, il s'exprime plus vraiment, ou il s'exprime plus que par oui ou par non, le juge, et c'est ce qu'on va entendre dans le film, le juge lui demande même d'essayer de faire des efforts, et bon, donc la vraie question centrale qui a pu se poser, et qui peut se poser encore aujourd'hui, c'est a-t-il ou pas été drogué ? Est-ce qu'on l'a obligé à se taire, en fait, à travers des drogues ? Est-ce qu'on l'a empêché de parler en le droguant ? Et ce qui est une grande attente sur la base de cette actualité, c'est qu'on a pris la décision 90 ans après, là, de déterrer donc effectivement son corps pour faire des analyses toxicologiques et vérifier si oui ou non, des drogues ont pu l'être administrées pour l'empêcher effectivement de parler. Voilà.
Et on va avoir la réponse dans les semaines à venir, dans les mois, c'est ça, hein ?
Voilà, et le premier élément de réponse pour moi, il est dans le film, mais effectivement, les réponses toxicologiques, elles viendront après.
Vous nous apportez cette lumière, et ce qui est fou, voilà, avec l'actualité qui est aussi importante. Alors, ce documentaire va passer le mardi 7 mars à 20h55 sur Arte.
Oui, c'est ça, tout à fait. Il va passer, il est déjà en ligne sur le site de arte.tv. Mais effectivement, il sera diffusé le 7 mars à 20h55, qui correspond plutôt, plus ou moins à la fin de la démocratie allemande, puisque le 5 mars 1933, à la suite de l'incendie du Reichstag, donc, Hitler a obtenu les pleins pouvoirs par un décret, hein, et à partir de là, le 5 mars ont lieu un certain nombre d'élections, a lieu une nouvelle élection, et cette élection consacre complètement la victoire et l'hégémonie des nazis.
Qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous attendez des retours des gens, Est-ce que vous avez envie d'avoir ce retour du public par rapport au documentaire?
Oui, moi je suis toujours intéressé et je suis toujours passionné de voir les différentes remarques qui peuvent être faites sur les films que j'ai pu réaliser. Celui-ci, il est vraiment très particulier, il m'est très cher aussi parce que c'est vraiment, encore une fois, une enquête. Hein, et c'est vrai que ça va dans une direction où on revisite quand même vraiment une histoire qui quand même encore une fois marquante aujourd'hui. On vit dans une démocratie et on sait qu'une démocratie est par définition fragile, qu'elle peut être atteinte aussi dans ses fondements par l'avènement d'une dictature. Donc c'est quelque chose qui est quand même très proche de nous, hein, même si c'est 90 ans d'écart, c'est quelque chose qui est très proche de nous. Et puis c'est intéressant aussi de voir quelle réaction pourraient avoir les téléspectateurs à l'idée de suivre à la fois une histoire et une enquête, quoi. Parce que le but vraiment du film était d'apporter des révélations vraiment marquantes, des réponses en fait, hein, à quelque chose qui est quand même resté un mystère. Il faut quand même avoir à l'esprit que pendant au minimum 50 ans, les historiens n'ont pas cherché à aller plus loin que finalement le verdict qui a été fait lors du procès de l'incendie du Reichstag, c'est-à-dire la culpabilité unique d'un seul homme, c'est-à-dire Marinus van der Lubbe. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, pendant 50 ans, des années 60 à aujourd'hui, disons aux années 2010, on n'a pas voulu aller plus loin. Donc le film, vraiment, a pour vocation d'apporter des réponses. Et moi, j'aimerais bien, effectivement, que les téléspectateurs qui le regardent se disent « Ah, bah voilà, j'ai enfin une réponse à cette question, qui est quand même une question qui était vraiment importante dans le cours de l'histoire. C'est quand même elle qui a conduit, effectivement, à la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même elle qui a conduit à créer ces fameux camps de concentration, qui a mené à la Shoah. Enfin, c'est quand même un événement qui est un événement fondateur d'une grande partie de notre histoire contemporaine.
En tout cas, moi, je peux vous dire qu'à la sortie de la salle, ça discutait énormément. Ça a fait, voilà, au Festival de Luchon. On a beaucoup échangé, donc c'était hyper intéressant. Des personnes qui ne pensaient pas du tout, ne connaissaient pas du tout cette histoire. Et ça leur a fait un grand bien parce que ils ont pu comprendre beaucoup de choses. Donc moi je vous remercie de leur part. Malheureusement j'ai pas pu avoir leur retour puisque ils étaient un peu timides et on a juste discuté en sortie de salle. Mais je vous remercie vraiment de leur part.
Ah ben, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.
Et merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir fait cette émission pour présenter votre documentaire L'incendie. Du Reichstag quand la démocratie brûle.
Merci à vous.
Voilà qui clôture ce spécial chaud devant, l'incendie du Reichstag quand la démocratie brûle. Merci énormément à Michael Gamsrasny d'avoir été avec nous. Merci Shelley de m'avoir tenu compagnie pour présenter ce documentaire. Et rendez-vous sur Arte ce 7 mars à 20h55. Should I stay or should I go?